Le choix de notre vie est simple. Il est d'être des adorateurs ou des consommateurs. Et j'emploie ces termes au pluriel parce que ce choix, nous ne le faisons pas tout seuls, ni même une fois pour toutes. Nous le faisons, nous avons à le faire et à le refaire tous les jours. Et il dépend pour une large part des personnes avec qui nous vivons, que nous n'avons pas toujours choisi, mais pour une bonne part que nous pouvons choisir. Adorateur ou consommateur. Ces termes font partie de ces mots qui n'ont de sens finalement qu'au pluriel, ou plutôt qui n'ont pas le même sens au pluriel. Il en va ainsi dans la Bible, où le meilleur exemple sont les pauvres au pluriel. Heureux les pauvres de cœur, dit Jésus. C'est-à-dire ceux qui ont suffisamment de liberté intérieure, de liberté à l'égard des questions matérielles, pour adorer Dieu, pour devenir de vrais adorateurs, en esprit et en vérité, pour venir ainsi, comme nous le faisons, adorer Dieu pour le louer, le révérer et le servir. C'est la formule de Saint Ignace de Loyola, que nous avons fêté hier, 31 juillet, en cette année qui lui est dédiée. C'est le 500e anniversaire de sa conversion et le 400e anniversaire de sa canonisation. Louer, révérer et servir Dieu. Louer, servir, nous comprenons. Révérer, ça fait le lien entre les deux. Ça signifie traiter avec le plus grand respect, ça va bien au-delà d'une révérence. C'est très exactement la crainte de Dieu, la crainte au sens biblique. Le placer au-dessus de tout, à lui tout honneur et toute gloire. L'homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme. C'est la première phrase d'un texte de Saint Ignace, Principe et fondement, qui est peut-être le meilleur éclairage de l'évangile que nous venons d'entendre sur le travail de l'homme. Travailler, dit Jésus, non pour consommer, pas pour assouvir vos envies, je ne parle pas des besoins, vos envies, pas pour accumuler des biens qui sont voués à disparaître, mais pour ce qui nous fait grandir dans l'amour, pour ce qui constitue réellement le chemin de notre vie, le chemin du bonheur, pour participer à la construction du corps du Christ, ce corps dont le Christ est plutôt la pierre angulaire. Adorateur ou consommateur, il nous faut choisir. Nous regardons souvent avec étonnement aujourd'hui les victimes d'addictions. On parle de plus en plus d'addictions de toutes sortes qui se multiplient, que nous qualifions souvent de pathologies, où nous disons qu'ils ont besoin d'une aide médicale, en oubliant que la pire, du moins la plus forte, la plus grande des addictions, la plus sournoise, c'est l'argent. Ce sont les biens matériels, c'est la richesse, le confort, la propriété. Et c'est un esclavage, un asservissement qui est relativement récent. Les plus âgés d'entre nous, génération du dessus, ceux qui avaient 12 ans ou 15 ans, 40, et qui ont vécu l'exode, qui ont tout quitté en quelques heures avec une petite valise, savaient par force et savaient d'expérience, ils savaient à l'époque la fragilité de l'existence. Aujourd'hui, il faut aller en Afrique ou dans d'autres pays du monde pour retrouver cette lucidité de l'homme sur la précarité et sur l'illusion des sécurités matérielles. Heureux les pauvres de cœur, car ils ne mettent pas leur confiance dans des biens matériels. Les personnes les plus sages que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie ont pratiquement toutes connu ces deux états la richesse et la pauvreté. La richesse et la pauvreté qu'il vaut mieux, on ne les choisit pas, mais qu'il vaut mieux vivre dans ce sens-là, c'est-à-dire une certaine aisance, au moins une sécurité dans l'enfance, et puis une forme de dépouillement, de privation, pour nous rendre à nous-mêmes, pour retrouver notre liberté, pour nous rendre à Dieu. C'est ce que nous vivons chaque année pour préparer la Pâque, la résurrection du Seigneur. C'est ça, le sens du carême. Jésus a commencé à nourrir les foules parce que c'était l'urgence, et encore, après leur avoir parlé longuement, après avoir guéri les malades, délivré les possédés, et la lettre aux Hébreux le dit en son début de façon magnifique, dans une grande vision à travers les siècles, après avoir parlé à bien des reprises et de bien des manières à nos pères et par les prophètes, à la fin, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous parle par son Fils, héritier de toutes choses, par qui il a tout créé, puisqu'il est Dieu lui-même. Et cette séquence, c'est celle de nos messes. Dieu nous parle, il nous nourrit de sa parole. Et nous passons du rappel de l'histoire sainte, de sa vie vécue parmi nous, donnée jusqu'au bout, au mémorial de son sacrifice, au jour qu'il fut livré, quand il nous a donné son corps immolé, glorifié, pour que nous vivions toujours avec lui. Et ce toujours s'appelle adorer. Être des adorateurs en esprit et en vérité. C'est cela l'excellence de l'Eucharistie, de la messe. C'est ce qu'a rappelé le Concile de Trente de façon extrêmement forte. L'excellence de la messe, c'est de rendre présent Dieu lui-même, l'auteur de la sainteté. C'est ainsi que commence la deuxième prière eucharistique que je reprends avec vous chaque dimanche. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, toi qui nous sanctifies par ta simple présence. La particularité de la messe, de l'Eucharistie par rapport aux autres sacrements. Tous les autres sacrements n'ont leur vertu sanctifiante, ne viennent nous sanctifier que lorsqu'on les reçoit. Il faut être baptisé, recevoir la confirmation, recevoir l'absolution de la confession. Il faut recevoir les sacrements pour qu'ils viennent nous sanctifier. Le propre, la grandeur, la particularité de l'Eucharistie, c'est que, avant même, ou même si on ne reçoit pas sacramentellement le Christ-hostie, la messe est par elle-même sanctifiante. Et le Concile de Trente, dans son décret sur l'Eucharistie, dit que ce n'est pas parce que la messe a été instituée par le Christ comme une nourriture qu'on doit moins l'adorer. Alors, quelle différence entre adorer et consommer ? On pourrait dire que c'est la différence d'attention entre le désir de l'âme et le désir du corps. Dieu seul peut combler le premier. La vie animale s'arrête au second. Elle s'arrête à la satisfaction des besoins, des désirs, des instincts. Une sorte de plafond de terre. On parle souvent d'un plafond de verre, il y a un plafond de terre. Quand la vie s'arrête simplement à la consommation. Et les béatitudes de l'évangile de Luc nous mettent en garde. Malheur à vous les riches qui avez votre consolation, quel malheur pour vous qui êtes repus, qui êtes satisfaits de peu et en fait de rien, car votre âme, en vérité, elle a faim et soif de justice. Elle a faim et soif d'amour. À tous ceux qui s'inquiètent de quoi demain sera fait, ceux qui souffrent de ne pas avoir ce que tant d'autres ont autour d'eux, sont données ces paroles d'un psaume, le psaume 36, qui dit « Ne t'indigne pas à la vue des méchants, n'envie pas les gens malhonnêtes, aussi vite que l'herbe, ils se fanent comme la verdure, ils se flétrissent, fais confiance au Seigneur. » Agis bien, habite la terre, reste fidèle, mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. C'est ce chant que vous connaissez, si populaire dans nos assemblées chrétiennes, dont le refrain dit « Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer », qui reprend ces paroles de saint Augustin, « Tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi ». La première phrase du premier couplet résume le dilemme de notre vie. Qui pourra combler les désirs de mon cœur ? Répondre à ma demande d'un amour parfait. Adorateur ou consommateur ? C'est une bonne question pour notre prière. Qui comblera les désirs de mon cœur ? Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, toi l'amour absolu de toute éternité ?